En février dernier, on avait parlé à Frédéric Loisel afin de mieux comprendre les multiples facettes du métier d'ergothérapeute. Mais on se doute bien que pour beaucoup d'autres métiers de la santé, ça a été chamboulé dans les derniers mois par la crise sanitaire. Alors, on a décidé de profiter du fait qu'octobre est le mois de l'ergothérapie pour prendre des nouvelles de Frédéric Loisel, qui est ergothérapeute à l'Institut universitaire sur la réadaptation en déficience physique de Montréal. Bonjour, Monsieur Loisel.
Bonjour, Madame Carpagna. Je vous appelle Christiane.
Oui, bien sûr.
Ben, bonjour, Christiane.
Frédéric, quand on s'était parlé en février dernier, vous étiez au programme Transition École Vie Active en déficience physique. Là, j'ai vu à votre signature que votre rôle a un petit peu changé.
En fait, c'est intéressant qu'on se parle aujourd'hui parce qu'aujourd'hui même, le 5 octobre, je retourne dans mes fonctions usuelles et cliniques en très grande partie.
Okay.
Parce que oui, depuis le mi-mars, dès le départ, là, quand la crise, la première vague a vraiment frappé, plusieurs d'entre nous, ergothérapeutes et toutes les autres professions ou disciplines là, paramédicales, je pense orthophonistes, psychologues, psychoéducateurs, éducateurs et j'en passe, ben, plusieurs d'entre nous avons été délestés. C'est-à-dire qu'on a quitté nos bureaux, nos clientèles pour aller donner main forte ou porter du renfort en deuxième ligne. C'est-à-dire, moi, dans mon cas et pour plusieurs, on était une cinquantaine de l'Institut Raymond Devoir et de Lucie Bruneau, le Centre d'adaptation de médecine physique, pour se rendre à l'Institut Gingras des Îles de Montréal dans le Côte-des-Neiges, qui est notre gros centre de réadaptation là, oui. À l'Université de Montréal. Alors, pour que les gens comprennent un peu, là, la première ligne, c'est souvent dans les cliniques médicales, les CLSC, les grands hôpitaux, les urgences. La deuxième ligne, c'est la réadaptation, que je donne un grand résumé. Puis la troisième ligne, c'est nous, un petit peu en réadaptation, quand on est signalé là, le retour à la maison, au travail, dans les activités courantes de la vie quotidienne, bien ça, c'est la troisième ligne. Alors, beaucoup d'entre nous qui voyons des clients en externe, en troisième ligne, dans nos centres, là, l'IRD et Lucie Bruneau, on est allé porter main forte. Alors oui, j'ai fait toutes sortes de choses, Christiane. Laver des jaquettes, désinfecter, travailler 7 jours sur 7, ou pratiquement 6 jours sur 7, des soirs, le matin, finir tard, faire de la surveillance, désinfecter des gymnases, désinfecter des meubles, faire la police un peu, entre guillemets, pour s'assurer que nos clients et par la suite nos familles respectent les consignes sanitaires. Bref, toute une aventure. Puis aujourd'hui, je reviens à mon bureau. Depuis 6 mois, j'étais parti.
Et pendant ce temps-là, les gens que vous voyez d'habitude, qu'est-ce qui est arrivé? Ils ont été, est-ce qu'ils n'ont pas pu avoir des consultations? Tout était arrêté?
Effectivement, c'est ça. Je dois être honnête avec vous, je n'avais pas dormi les premières semaines en pensant à ma jeune clientèle. Comme vous le savez, moi, je travaille avec la déficience physique, hein, autant sensorielle, langage, surdicité, puis les troubles moteurs neurologiques. Donc, les jeunes en transition vers la vie adulte, donc des jeunes de 16 ou plutôt 18 à 26. Alors, on s'est assuré, bien sûr, en individuel, hein, chaque client, comme vous le savez, il y a toujours un clinicien qui est responsable ou qui est intervenant pivot. Alors, on s'est assuré que chacun de nos jeunes adultes clients ben, ait au moins un filet de secours, des références, une ressource quelconque pour les soutenir pendant cette vague. Car oui, malheureusement, on a dû abandonner, en quelque sorte, encore là, entre guillemets, nos clients pour aller porter main forte à toutes sortes de tâches là, vers la deuxième, première ligne et beaucoup aussi en CHSLD.
Est-ce que ça vous inquiétait de peut-être qu'il y ait des acquis qui soient perdus ou du retard pris par ces jeunes-là?
C'est une très bonne question. Vous savez, moi, avec le CIRS social, on avait parlé un petit peu, hein, je crois, lors du dernier entretien. On développe depuis, ça fait déjà 10 ans, là, que maintenant, on est une équipe à la TEVA, Transition École Vie Active, TP, c'est le nom de notre programme. On développe des compétences de base à la vie quotidienne, des life skills, des compétences de vie, si on veut, essentielles pour affronter les défis du quotidien. Puis la bonne nouvelle, Christiane, c'est extrêmement touchant. Un peu comme dans ma recherche, là, quand j'avais fait mon étude sur le CIRS social, où on développait ces compétences-là auprès des jeunes, c'est-à-dire tout ce qui touche hein, l'autonomie au transport, tout ce qui touche vers la perception de soi plus réaliste, plus positive, hein, son image de soi, sa confiance en soi, la confiance envers les autres, tout ce qui touche les relations interpersonnelles, aussi prévocationnelles, préparatoires à l'emploi, tout ce qui touche aussi les responsabilités que vous avez personnes gérer sa santé, son dossier, son hygiène de vie, et tout ce qui touche la communication, bien sûr, ben, ces compétences de base-là, comme dans mon étude, ben, normalement, si on a appris ou on a réussi à réussir ou à se sentir efficace dans ces compétences-là, bien, c'est rare qu'on en perd. Puis, vendredi, il y a 2 semaines, on a eu la chance de rencontrer nos 14 jeunes qu'on a dû abandonner, encore une fois, entre guillemets, laisser en mars dernier pour aller au front. Ben, on les a revus pour conclure un peu notre année qui avait débuté, qu'on a dû arrêter rapidement. Et notre grande surprise, puis je vous en parle, j'ai le poil qui dresse sur les bras, puis j'ai les yeux larmoyants, je me rappelle, on était très touchés de voir nos jeunes qui, malgré une absence de nos services pendant 6 mois, comme on avait déjà donné pratiquement un 3-4 mois intense avec eux, on avait réussi là, à semer les bonnes graines, à leur donner ces compétences de base là en partie. Eh bien, Christiane, quand on les a vus, on était surpris de voir comment ils allaient relativement bien. Ils étaient fiers, ils ont poursuivi leur chemin, leur projet, et ils nous remerciaient comment on avait pu faire une différence. Alors, c'est ce qui me soulage, parce que comme je disais, quand on a dû partir au front, puis moi je suis parti comme un autre, un des premiers dans mon équipe ici, dès la mi-mars, fin mars, et revenir 6 mois après, quand j'ai vu ces jeunes-là, ça nous a marqué, mais on a vu qu'ils avaient quand même été capables de prendre et tout ce qu'on leur avait donné, tout ce qu'ils ont pu acquérir comme compétences, comme force intérieure dans leur perception d'eux-mêmes, leur confiance en eux-mêmes, puis ont pu quand même poursuivre leur cheminement relativement bien. Ce qui veut dire qu'on fait du bon boulot tous ensemble. Mais donc, de notre côté, c'est peut-être pas le cas pour mes collègues ou consoeurs, confrères à côté un peu, qui ont travaillé en petite enfance. Hein, parce qu'on sait que déjà, dès le mois de fin juin, je dirais le mois de juillet, par vague, plusieurs professionnels qui étaient dédiés, si on veut, à la petite enfance, les 0-5 ans, tout ce qui est préparatoire à l'école, tout ce qui touchait aussi la personne âgée, les CHSLD, tout ce qui touchait aussi les services offerts aux familles en déficience intellectuelle et partiellement en trouble du spectre de l'autisme, ben, tous ces professionnels-là ont été priorisés pour qu'ils quittent leur poste au front et qu'ils retournent à leur poste pour aider ces clientèles jugées parmi toutes les priorités gouvernementales du ministère de la Santé comme étant les plus vulnérables et les plus propriétaires et prioritaires. Alors moi, j'arrive parce que c'est un peu spécial, c'est que j'ai donné un appui, je suis un gars de plusieurs couleurs et qui a plusieurs cordes à son arc, alors j'ai aidé la direction adjointe à engager, orienter, accueillir tous les nouveaux employés de la Croix-Rouge. Et je contribue, merci à tous ces Québécois qui ont donné du temps et qui en donnent encore, on en veut encore, qui sont devenus porter main forte là, pour que nous, les professionnels, on puisse retourner à nos fonctions comme moi aujourd'hui plus officiellement.
Et là, vous repartez au programme Teva avec une nouvelle cohorte?
Bien, en fait, notre cohorte va être un peu différente. On retrouve dans le plan de retour, si on veut, à nos services, du moins je parle pour nos programmes en DP, en déficience physique, dans le CIUSSS Centre-Sud de l'île de Montréal, mais ça doit être seulement un peu comme ça à travers les CIUSSS et les CIUSSS du Québec. Bien, on s'était donné comme objectif de reprendre l'entièreté de nos services, bien sûr, adaptés à la COVID, c'est-à-dire en Zoom, oui, en télécontrôle. En téléthérapie, en visite à domicile, où on se rejoint dans les lieux publics en parc, on peut quand même faire des interventions significatives, importantes, pertinentes. Mais alors tout ça pour dire qu'on s'était comme en l'entente et que nous reprenions nos services le plus possible dans nos volumes usuels de clientèle pour fin décembre, si on veut, décembre 2020, donc un retour en janvier 2021. Bien sûr, on est en pleine deuxième vague. On ne sait pas si on retournera encore une fois au front. Je ne crois pas, puis là, je ne peux pas parler au nom du gouvernement ou de mon organisation, mais ayant travaillé depuis 6 mois auprès de la direction adjointe, ce n'est pas la priorité. On veut vraiment maintenir le plus de services auprès de nos clientèles parce que, quelque part, elles sont toutes importantes, prioritaires et vulnérables. Mais cela étant dit, on espère que la deuxième vague ne frappera pas autant parce que, comme on le sait, Christiane, on l'entend dans les médias, puis j'ai été témoin de Visu pendant les 6 derniers mois, on commence à avoir du personnel fatigué, on commence à voir du personnel qui doivent quitter parce qu'ils sont papa, maman, d'enfants dans les écoles. Alors, mon Dieu, j'ai un cri du cœur, puis je prends votre tribune pour dire aux gens, respectons les consignes, respectons, soyons solidaires pour qu'on puisse passer à travers cette deuxième vague-là parce que j'ai des craintes.
Parce qu'il ne s'agit pas seulement de risques pour notre propre santé, il s'agit d'un effet domino ensuite.
Un effet domino, qu'on vient de dire, qui veut pas, affecte nos populations, nos clientèles vulnérables. Et même si on est en intégration sociale, comme pour moi et mon équipe, ben c'est drôlement important parce qu'il y a plein de jeunes qui ont pas toutes des familles fonctionnelles ou du moins qui ont toutes les capacités à les aider à transiter vers une vie active, une vie citoyenne forte et sereine et satisfaisante pour tous. Puis là, je passe à côté, bien sûr, de tous les cas dont on a entendu, les chirurgies reportées, les traitements de cancer, Alors, il faut éviter, puis c'est ce que je pense que nos réseaux de santé vont tout faire, toute leur force pour maintenir les services. Mais je vois qu'on est conscient que notre réseau, nos préposés, infirmières, médecins, tout le monde, on est à bout de notre rôle un peu. Hein? Alors, il faut que la communauté fasse encore des efforts supplémentaires, même si on le fait difficile à plusieurs égards, puis on est frappé de plein fouet, tout le monde, de différentes façons dans nos vies, dans notre quotidien.
Est-ce qu'il y a des choses qu'on a apprises dans les derniers mois qui vont pouvoir servir par la suite? Je pense justement à toute l'utilisation de Zoom et de la visioconférence.
Eh bien oui, puis même pour nous professionnels, c'est vrai que moi, je ne me considère pas un vieux, mais ça fait 30 ans. Donc, je pense pour les plus pour moi, en technologie, je vais faire de faire à jour. Encore ce matin, j'essaie de me brancher et de mettre mes portables personnels à jour pour justement, dans l'éventualité, de faire du télétravail, du télézoom, la thérapie même de chez moi, ce qui n'est pas l'idéal parce que j'ai un petit chez nous, mais bref, je pense qu'on est tous en train de s'arrimer. Puis s'il y a eu. Ben en fait, si vous permettez, il y a une chose qu'on a vécue, professionnels, ergo et toutes les équipes interdisciplinaires qui avons été délestées, c'était la solidarité, la force humaine pour apprendre à se connaître dans le plus difficile, dans le plus beau de l'humain. Alors ça, c'est une chose que je dois dire et qui résonne partout, je suis certain, chez mes consoeurs et confrères et collègues du réseau. On a été dans l'humain à son plus grand point et ça, c'était réconfortant. C'est juste que tous ces humains, ces anges gardiens, hein, qu'on se rappelle les klaxons et les fanfares, oui. Tout le monde nous remerciait. Ben, les anges gardiens ont perdu des ailes, ils ont perdu des plumes. Alors, il faut continuer à penser à nous tous et surtout penser à toutes nos familles touchées, hein, parce qu'on essaie de donner les meilleurs services, mais veut pas. C'est différent. Donc, oui, on a eu le côté humain, puis oui, les technologies, on a dû à faire un virage à 180 et s'est approprié ces fameuses technologies-là. Et je dois dire, somme toute, que on réussit quand même à faire du travail efficient, puis on continue à s'adapter. Donc, oui, ça a été quelque part quelque chose de positif dans tout ce qu'on a vécu, hein, Christian.
Il en faut. Il en faut. Ben, Frédéric Loisel, ergothérapeute, clinicien à l'Institut universitaire en réadaptation de déficience physique de Montréal. Ben, merci beaucoup d'avoir nous avoir parlé aujourd'hui pour qu'on puisse faire le point là, sur ces 6 derniers mois. Et qui sait, peut-être qu'on se reparlera à nouveau.
Ben, merci à vous, puis encore une fois, merci à tous les professionnels et tous les membres du soin du service de la santé. Là, on lâche pas, puis ensemble, population et nous, on peut faire une différence. Donc, portez-vous bien, Christiane et toute l'équipe.
Au revoir, Frédéric.